L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi sur Souvenir FM. On remercie David pour la programmation musicale. David, on te retrouve dans une heure pour la suite de la matinée en musique. Mais pour l'heure, c'est l'invité du 12-13, l'émission qui donne la parole à ceux qui font bouger notre territoire, qui agissent et qui s'engagent pour la culture. Car aujourd'hui, c'est bien de culture dont nous allons parler. Le printemps a démarré en beauté et qui dit printemps dit saison des festivals. Et aujourd'hui, à Souston, nous avons le plaisir de recevoir Julien Ducos, le directeur artistique du 37e Festival du Conte et des Arts de la Parole de Cap-Breton. Bonjour Julien.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir, à l'approche de l'événement. Julien n'est pas seul dans le studio, nous accueillons également Madame Sarah Pitot, qui est l'élue à la culture, au patrimoine et à l'histoire locale à la mairie de Cap-Breton. Bonjour Madame Pitot.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être ici pour cette émission. Nous avons une heure devant nous pour tout savoir sur ce festival. Mais avant ça, c'est l'heure de retrouver les infos nationales et internationales. Et on se retrouve juste après pour le démarrage de notre émission. À tout de suite. Et c'est parti, chers auditeurs, pour l'invité du 12-13 où nous parlons, pas du Festival de Cannes qui démarre, mais du 37e Festival du Conte et des Arts de la Parole de Cap-Breton, avec Julien Ducos, son directeur artistique, et Sarah Pitot, l'élu à la culture à la mairie de Cap-Breton. Alors, messieurs, dames, avant de rentrer plus en détail dans l'événement à proprement parler, ce qui nous intéresse à chaque émission sur Souvenir FM, c'est un peu la tradition, c'est d'en savoir un peu plus donc sur nos invités du jour. Et on demande une petite bio à chacun, une trajectoire personnelle ou un petit portrait. Je vais vous demander de vous livrer à l'exercice. Qui voudrait commencer peut-être Julien, on va démarrer par vous. Quel a été votre parcours avant d'être directeur artistique de ce festival ?
Alors mon parcours, moi je suis né à Hossegor où j'ai grandi jusqu'à mes 4 ans. Et ensuite ma famille habitait plutôt en Chalosse où je suis toujours. Et j'ai toujours travaillé dans des structures culturelles dans les Landes. Il y a eu l'association Entracte à Mugron, le café Bois Sec à l'Arbeil, la prison de Mont-de-Marsan. J'étais chargé de diffusion pour des compagnies, donc j'ai toujours gravité dans le milieu culturel et artistique landais. Voilà. Il y a juste, je ne suis pas fait pour monter sur les planches. Voilà. C'est un des seuls métiers que je n'ai pas fait. On va dire dans la culture. Et actuellement, là, donc, je travaille au Théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan. Je m'occupe des projets de territoire pour la scène conventionnée de Mont-de-Marsan. Et parallèlement à ça, je suis aussi directeur donc, du pôle de l'oralité de Cap-Breton.
D'accord, mais très bien. Merci. Merci pour cette présentation de votre côté, Sarah. Donc, vous êtes élue à Cap-Breton.
Exactement. Moi, je suis d'origine toulousaine. Ah, alors, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça arrive. Et je soutiens le Stade Toulousain aussi.
Oui, bon.
Mais j'ai déménagé à Cap-Breton en 2010. Oui. J'ai fait des études de droit. Je suis avocate et effectivement, depuis le précédent mandat, je suis adjointe à la culture de la ville de Cap-Breton. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis maman de deux enfants qui sont scolarisés à Cap-Breton. Et juste, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Effectivement, le Festival du Conte et des Arts de la Parole, bah, c'est un peu notre festival de Cannes.
Oui, c'est le festival de
Cannes. Sans le tapis rouge.
Voilà, et avec l'océan en toile de fond et pas la mer Méditerranée. Bon, mais merci pour ces présentations. Maintenant que nous savons à qui nous parlons, on va essayer de savoir de quoi nous parlons maintenant. Donc, effectivement, il y a ce Festival du Conte et des Arts de la Parole, mais j'aimerais d'abord, Julien, peut-être commencer, avant de rentrer dans le détail de tout ce qu'il revêt, ce festival, par quelques définitions. On parle de conte, on parle d'art de la parole. Instinctivement, on pense au récit parlé, au théâtre, etc. Mais j'imagine que les arts de la parole ou le conte en général, ça va bien au-delà, non ?
Tout à fait. Alors pour le festival, en plus, fête sa 37e édition. Donc c'est un festival qui a une histoire et qui a vu évoluer le milieu du conte et des arts de la parole au fur et à mesure des années. Mmh. C'est vrai que quand on parle de conte, on imagine une forme assez simple. Une personne qui nous raconte une histoire, ça a commencé du temps des cavernes, au temps des cavernes peut-être, ou plus tard, voilà, au coin du feu, avant qu'il y ait la télévision dans les foyers notamment. C'était un peu la principale activité, se raconter des histoires au coin du feu. Alors le conte, c'est pas que ça. Le conte, c'est effectivement qu'on nous raconte une histoire, un récit, une aventure dans une forme assez épurée. Ensuite, il y a eu différents mouvements. Il y a eu le renouveau du conte, notamment dans les années 70, avec des conteurs qui se sont saisis du conte compte et qui l'ont fait connaître, qui l'ont amené plus proche des publics dans l'interaction, dans l'action culturelle, dans le fait de ce qu'on appelle les droits culturels aujourd'hui, d'arriver à travailler avec les personnes et d'échanger, que ce soit pas simplement en descendant. Mmh. Et ensuite, qui ont amené de nouvelles formes aussi de proposer le conte. Il peut y avoir des décors, il peut y avoir du geste, il peut y avoir un peu de danse, de la chorégraphie, il peut y avoir des lumières. Voilà, donc tout ce renouveau qui a commencé dans les années 70, qui continue aujourd'hui, a amené le conte dans une autre dimension, sans oublier d'où il vient, mais il lui a donné une autre dimension et différentes formes aussi. C'est pour ça qu'on parle maintenant de conte, d'art du récit, d'art de la parole, parce que ça peut revêtir différentes formes. Mais le principal, je pense, au fond, c'est que d'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire et qui arrive à nous emporter.
Et alors une histoire, on est d'accord, quelque chose de créé, quoi. Je veux dire, une histoire inventée la plupart du temps. Enfin, il y a quand même un aspect vraiment... création autour de ça ou...
Ah, il y a un aspect création, ensuite il y a différents mouvements du conte. Alors, il y a le conte traditionnel, fantastique, mythologique, qui sont un peu des histoires qui sont ancrées dans, dans notre culture et dans la culture de beaucoup de monde, parce qu'on vient, beaucoup de là. Et aujourd'hui, on va dire que ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est des récits et des récits de vie. Donc des personnes qui vont nous raconter une histoire plus personnelle et qui vont se livrer plus personnellement. Et ce qui se fait beaucoup et que moi j'apprécie beaucoup, c'est justement les spectacles où on a une personne qui nous raconte une histoire contemporaine et qui fait des parallèles avec une histoire mythologique ou une histoire traditionnelle, et on voit en fait que ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui fait un peu ces histoires, notre société, la façon dont évolue notre société, c'était déjà écrit il y a des milliers d'années en fait. Et dans les histoires mythologiques, on peut faire vite beaucoup de parallèles avec, ce qui arrive
avec
aujourd'hui,
avec le quotidien. Ben très bien, ok, merci pour cette introduction. Concernant l'événement maintenant, donc il démarre, Sarah, il démarre demain jusqu'à dimanche, donc ça s'étale sur 4 jours. Donc à Cabreton, on parle de près de 50 animations, enfin, ou de 50 personnes qui sont là, 50 artistes qui viennent performer sur 4 jours, c'est assez énorme hein, finalement.
5 jours.
5 jours, merci. Jeudi y compris, ouais. Qu'est-ce qu'on pourra voir là pour les auditeurs qui n'ont pas forcément entendu parler de ce festival ou qui n'ont pas vu les communications au demeurant très bien faites hein. Qu'est-ce qu'on pourra voir si on participe au festival ou si on se rend à Cabreton là de jeudi à dimanche? Racontez-nous un petit peu.
De mercredi à dimanche.
Mercredi, pardon. Donc c'est vraiment 5 jours.
C'est vraiment 5 jours.
Pardon.
Donc Julien va pouvoir nous donner plus de détails, mais c'est vrai que ce qu'on va pouvoir voir, c'est une proposition qui s'adresse à tous, accessible, qui s'adresse à tous les âges. On peut venir seul, en famille. Il y a un village. Alors c'est pas juste un festival, je me rends dans une salle, voilà, et je veux voir un spectacle. C'est pendant 5 jours. Il y a un village. Cette année, on est revenu en cœur de ville, donc jardin public.
D'accord.
Et on installe un nouveau chapiteau, plus ouvert, accueillant. Voilà, c'est une véritable pépite, ce chapiteau. On espère qu'il plaira aux festivaliers. Et il est installé dans le jardin public. Et dans le jardin public, comme chaque année, on a voulu créer un village. Donc il y a le stand de la médiathèque, il y a le food truck pour la partie
restauration,
exactement. Et voilà, donc il faut pas hésiter à venir passer la journée, venir repartir, etc. C'est quelque chose de c'est gratuit l'accès au village.
C'est important effectivement de préciser que tout n'est pas payant. Évidemment, il y a des performances payantes dans des salles, mais il y a une grande partie aussi. D'activités qui sont ouvertes à tous.
Tout à fait.
Vous avez aussi, j'imagine, des partenariats avec les médiathèques ou librairies ou
Alors, la médiathèque, c'est même pas un partenariat, en fait, parce que le service culture, il s'appuie sur... on va dire le pôle de l'oralité dont parlait Julien tout à l'heure, il s'appuie sur le service culture, donc il s'occupe de toute la saison culturelle et spectacles qu'on a du mois de septembre au mois de juin, sur la maison de l'oralité et du patrimoine. Et sur la médiathèque ludothèque, l'écume des jours, voilà, c'est effectivement c'est elle qui est installée au sein du village. Il y a des animations, des contes audio à écouter, voilà, donc c'est même pas un partenariat, c'est vraiment un élément.
Ils font partie intégrante du festival.
Tout à fait.
Très bien. On parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, Julien, de l'accueil des artistes qui a déjà commencé. Alors comment ça se passe la logistique pour organiser ce genre de festival? Les artistes, ils viennent des quatre coins du pays, j'imagine.
Ça vient d'un peu partout, effectivement, et on est sur un gros week-end, donc Cabreton et la Côte Landaise est assez prisée, donc il faut s'y prendre à l'avance pour avoir des billets de train, pour pouvoir venir et repartir du festival. Mais ensuite, c'est toute une organisation. Il y a une équipe à l'année, Véronique, Delphine, Julie qui sont là et qui s'occupent de tout ça. Thomas, qui est un saisonnier, qui a rejoint l'équipe pour le festival du conte et du jazz qui a lieu plus tard pour toute cette logistique. Manu et Bernard, qui sont des directeurs techniques, qui s'occupent aussi de la logistique. Donc vraiment, il y a toute une équipe derrière tout ça pour organiser les repas, les hébergements, les trajets, les transports, les balances, etc.
Et donc les conteurs sont, j'imagine, bon, déjà contents de venir dans ce bel endroit, mais en plus sont bien reçus, donc toutes les conditions sont réunies pour de bonnes performances. Alors messieurs, dames, c'est... Oui.
Non, non, tout à fait, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très important justement. Les conteurs, beaucoup vont rester tout le festival pour faire différentes propositions, dorment au même endroit et on propose des lieux de convivialité pour qu'ils se sentent bien à Cabreton. Et ces lieux font que pendant le festival, ils se rencontrent, ils discutent, ils petit-déjeunent ensemble. Et ce qui fait que l'an dernier, on a pu voir sur le festival beaucoup de complicité entre les artistes. Oui. Beaucoup d'artistes sur scène qui faisaient référence ou un clin d'œil à un autre artiste qui était dans le public. Et c'est ça qui fait l'esprit et l'ambiance du festival, je trouve, le fait d'avoir une famille d'artistes qui est là et qui a envie de partager avec le public et de sentir qu'on est tous dans le même bateau et dans la même aventure pendant 5 jours.
Et oui, c'est ce qui le rend vivant, finalement. Merci. On est déjà à l'heure de la première partie. On va se laisser de la première partie. On va se laisser en musique et on se retrouve juste après pour la poursuite de nos échanges ensemble. Et nous sommes de retour dans l'invité du 12-13 ici à Souston, où nous parlons du 37e Festival du Conte et des Arts de la Parole, notamment avec son directeur artistique Julien Ducos. Alors Julien, parlez-nous un petit peu, on a planté le décor tout à l'heure, mais parlez-nous un petit peu de la typologie des représentations. Elle est variée, on vous l'avait dit tout à l'heure Sarah, il y en a un petit peu pour tous les goûts, intergénérationnels, etc. À quoi peut-on assister concrètement quand on y va ? Y a des scènes, il y a des choses qui se passent dans les jardins publics, dans des salles, etc. Dites-nous un petit peu.
Alors on peut assister à beaucoup de choses. Pour essayer de résumer un peu comment va se dérouler le festival, il y a effectivement un jardin public avec une tente nomade, donc un joli chapiteau qui ressemble à une grande tente berbère et qui est installée dans le jardin public. Là on va pouvoir retrouver des formes qui sont assez proches, qui sont assez épurées. On aura une ou deux personnes sur scène pour nous raconter des histoires, donc du conte plus traditionnel ou récit de vie. Et là il y a beaucoup de spectacles dans la journée, notamment... Tous les jours à midi, on peut retrouver Luigi Rignanez avec son spectacle de Racine à Racine. C'est un spectacle sous forme de série qu'on vous propose, puisque Luigi a rallié ses racines paternelles en Italie à ses racines maternelles en France à pied. Donc plus de 1000 km qu'il a fait à pied. Et il nous raconte en 4 épisodes les personnes qu'il a rencontrées. Il insère des contraditionnels au milieu de ce récit de personnes qu'il a pu rencontrer, donc ça mêle un peu l'expérience, le récit de vie, le contraditionnel. Lui est donc à deux origines, donc on voyage pas mal en Italie aussi. Oui. Il est multi-instrumentiste, donc il s'accompagne d'instruments, et là tous les jours à midi on peut le retrouver. Alors moi j'ai vu l'épisode 2 et 4, donc pas de souci, on peut venir voir une seule journée quand on peut suivre les 4 épisodes. Donc là on retrouve ce type de récit toute la journée sous ce chapiteau. Ensuite, on aura des arts de la rue qui seront plus au Square Mouloudji derrière la mairie, qu'on peut retrouver également plutôt en après-midi.
Alors les arts de la rue, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur ça ? Qu'est-ce que c'est ? Donc on n'est pas sur du conte, sur du récit
Non, on est sur des formes qui sont faites pour l'espace public, oui. Et donc qui vont jouer derrière le Square Mouloudji. Là, sur la programmation, c'est plutôt des formes jeune public, familiales. On a par exemple la compagnie Scopitone qui propose une relecture de Blanche-Neige ou du Petit Poucet en théâtre d'objets. Le cerf au sabot d'argent qui est un conte russe qui est mis en scène par la compagnie L'Aurore, où là on retrouve un marionnettiste qui a perdu sa voix. Conteur marionnettiste qui a perdu sa voix, qui nous raconte cette histoire, et un clown qui a perdu son chat qui intervient, et donc ils vont à eux tous arriver à raconter cette histoire tant bien que mal. Et on peut retrouver aussi par exemple L'île au trésor en fin de festival, donc l'histoire que l'on connaît tous de L'île au trésor et Jim Hawkins, là sous forme de théâtre d'objets aussi.
Et est-ce qu'on a une thématique ? Est-ce que chaque année, vous réfléchissez à une thématique, un fil conducteur ? Je ne sais pas, ça peut être la mer une année, la forêt une autre année.
C'est une bonne question.
Ou pas du tout ?
Pas forcément, il y a eu des années thématiques. Là, j'ai l'impression que la priorité cette année était de dire on veut faire le festival revient en centre-ville.
Investir
on veut
la
faire
rue.
Un festival à l'échelle de la ville. Oui. Donc il y a les lieux que je vous ai présentés, il y a la salle municipale où là il y a des spectacles avec des lumières, plus de scénographie éventuellement. On peut retrouver les spectacles et ensuite il se passe des choses dans la ville. Donc par exemple, on a invité la Cour des Comptes qui était là en février pour compter pour des sixièmes à faire des balades comptées dans Cabreton. Donc ils ont préparé deux circuits dans la ville où ils vont amener les spectateurs se balader dans Cabreton et ils vont mêler histoire locale, pareil et récits traditionnels.
Et alors Sarah, est-ce que sur ces choses-là, est-ce que vous associez les écoles de la commune par exemple? Est-ce que les instituteurs profitent de l'événement pour amener les gamins un petit peu se promener dans l'espace public pour participer, enfin ou au moins pour découvrir ces arts?
Alors oui, effectivement, il faut savoir que, Julien en parlait au tout début, Cabreton, c'est le pôle de l'oralité au sein du territoire Max. Et oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa mission, c'est vraiment d'explorer, de développer et de rendre visibles les arts de la parole et du récit. Et notamment de le rendre accessible aux scolaires. Donc on a tout au long de l'année, parce que l'oralité, ce n'est pas juste le festival, c'est vraiment tout au long de l'année. Et donc on soutient la création aux artistes, etc. Et on travaille sur des médiations. Donc Julien en a parlé tout à l'heure, on a une sensibilisation aux contes pour les sixièmes du collège. Chaque année, on reçoit aussi tous les élèves de CE2 du territoire Max. Donc ça fait plus de 1000 élèves au casino qui découvrent un spectacle de contes. Et ça fait plusieurs années aussi qu'on a une école qui joue le jeu et une institutrice qui joue le jeu et qui accepte de travailler avec un artiste pour co-créer les élèves et l'artiste un spectacle. Et cette année, c'est encore plus merveilleux parce qu'on a réussi, enfin, ils ont réussi à y associer les résidents de l'EHPAD.
Ah oui.
Exactement. C'est vraiment un spectacle merveilleux. Et donc, ils ont créé l'artiste, en fait, suite aux échanges qu'ont eu les élèves avec les résidents. Il a réussi à créer un spectacle. Alors, ça donnera aussi, par la suite, une sorte de, j'ai envie de dire, exposition, enfin, qu'on pourra retrouver au sein de la Maison de l'Oralité du Patrimoine. Mais donc, ces élèves, ils inaugurent, en quelque sorte, le festival, puisqu'ils ont même deux représentations le mercredi, une un peu privée et une à 16h. Voilà, où ils vont déambuler dans la rue, enfin plutôt jardin ouais. public et Boudigo. Donc oui, c'est une réelle volonté d'associer tout au long de l'année les scolaires et d'arriver en plus à avoir une représentation pendant le festival, c'est la pépite.
Et en plus de cocher la case intergénérationnelle avec cette année, la participation de l'EHPAD. C'est vrai que c'est
incroyable.
L'aspect intergénérationnel, il est important dans votre festival. Alors... peut-être que vous n'avez pas les chiffres, mais ça représente combien de visiteurs, un festival comme celui-là, grosso modo? Ça fait vraiment, vivre la ville. Enfin, on est dans une autre dimension quand il y a le festival. On sent vraiment la présence de plus de monde que d'habitude, non?
Alors, on sent la présence. L'année dernière, nous étions en front de mer, donc sur un week-end de l'Ascension très ensoleillé. Donc, il y avait le public du festival et les plagistes qui étaient là. Cette année, en centre-ville, on pense ça se verra encore plus parce que les personnes en centre-ville seront les badauds, bien sûr, les habitants de Cabreton, mais les festivaliers pour le Festival du Conte. L'an dernier, pour un ordre d'idée, il y a eu 7400 entrées au spectacle.
D'accord.
Entrées ou payantes pour les différents spectacles. Cette année, le programme est fait différemment. Donc, on verra si on est sur les mêmes chiffres ou s'il y en a plus, s'il y en a moins. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, c'est que le festival, en le ramenant en centre-ville, qu'il ait un impact sur la ville. Que les commerçants aussi voient qu'il y ait
les restaurateurs
qu'il y a du monde ce week-end-là qui n'est pas là d'habitude.
Ok, et quelles sont, est-ce qu'il y a des innovations cette année par rapport aux autres années? J'ai entendu dire que dans le village, il y avait la possibilité d'écouter des contes un petit peu en continu via une appli ou ce genre de choses. C'est nouveau ça ou...
Au niveau, alors sur le stand de la médiathèque, il y a toujours eu les jeux géants en bois qui ont un succès incroyable, et aussi l'écoute de contes audio, les animations.
Là, cette année, c'est un focus fait avec les éditions Oui Dire, qui est une maison d'édition spécialisée dans les contes. Et effectivement, l'idée, c'est de les accueillir, eux, l'année prochaine, peut-être qu'ils puissent venir sur le festival. Mais cette année, ils ne pouvaient pas venir. Mais on met en avant leurs contes en proposant des pauses pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent se poser sur un transat avec un casque pendant une demi-heure ou 45 minutes pour écouter
l'histoire. Sous le soleil, bien sûr.
Évidemment, on va faire la danse du soleil pour que tout se passe bien. Non, mais très bien, ça foisonne. On voit bien qu'il y a énormément d'activités. Il faut vraiment se rendre à ce festival, chers Cabretonais, Cabretonaises, et au-delà. On est à l'heure de la deuxième pause, donc on va se laisser un petit peu en musique. Et puis Jean-Philippe Dandurand nous livrera son flash info local. On se retrouve juste après, à tout à l'heure.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous sommes de retour sur Souvenir FM dans l'invité du 12-13 où nous parlons du 37e Festival du Conte et des Arts de la Parole avec le directeur artistique Nicolas Ducos et l'adjointe à la culture. Julien Ducos. Nicolas, il est arrivé d'où celui-là?
Je ne sais pas.
Aucune idée.
Je ne sais pas.
C'est Julien Ducos.
Mais c'est même génération à peu près.
Ouais, c'est le même genre de prénom, c'est vrai. Julien Ducos, pardon. Et Sarah Pitot, adjointe à la culture. Alors Sarah, ce festival, c'est aussi l'occasion, je ne vais pas dire d'inaugurer, mais de se réapproprier des nouveaux équipements de la commune. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Exactement. Cette année, retour en cœur de ville, après plusieurs éditions en front de mer. Et effectivement, c'est l'occasion de réinvestir. Alors, ça a déjà été le cas avec la saison culturelle et des événements des associations, mais on revient aux salles municipales rénovées. Salle municipale magnifique avec un vrai outil qui est complète, qui est parfaitement approprié aux événements culturels. Super acoustique, lumière, installation des gens. Ça nous a permis de faire pendant la saison culturelle des formats atypiques, petits gradins en face à face, voilà, de proposer des choses très intimes et assez atypiques. Donc on revient aux salles municipales. Marché rénové aussi avec sa superbe canopée.
Oui.
Et on revient aussi au jardin public tourné vers le Boudigo. Donc voilà, retour en cœur de ville, on se réapproprie vraiment ce cœur de ville propre
à
Cabreton.
Et on remet en lumière les nouveaux aménagements et ce que la ville met en place aussi pour rendre le quotidien merveilleux à Cabreton, agréable.
On a notamment cherché une proposition qui pouvait coller au marché, qui est le dernier outil créé. Et on a proposé au Pocket Théâtre de venir à la conserverie théâtrale. Mmh. C'est, la conserverie théâtrale, c'est qu'ils vont s'installer sur le marché de Cabreton samedi matin, pendant le festival, et qu'ils vont proposer de vendre des répliques de théâtre. Donc ils seront sur le marché, entre le marchand de fromage et le marchand de miel, et ils seront là pour croiser les spectateurs et échanger un sourire contre une tirade, un bout de fromage contre une réplique. Voilà. Donc ils seront au marché samedi matin.
Ils auront un emplacement réservé.
Exactement, tout à fait. Et on pourra les retrouver également au marché aux poissons jeudi matin, parce qu'ils seront là tout le festival.
Bon, mais super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors à ce programme hyper varié, Julien?
Donc il y a beaucoup de choses. Si je peux parler d'un spectacle, c'est peut-être déjà le mercredi, la journée d'inauguration, il y a eu la volonté de faire une journée gratuite. Donc tout est gratuit à partir du début d'après-midi. Des spectacles jeunes publics, la restitution du projet fait avec des CM2 avec Mathieu Dandreau de S3 Théâtre. L'inauguration à 18h qui sera animée par Adèle Zouane. Il y avait la volonté de toujours confier ces moments d'inauguration à un artiste également qui puisse mener un peu la danse. Il y aura la Criée des Tréteaux qui est la compagnie locale et qui fait une criée en récoltant des mots dans le public. Et le soir, on propose une forme un peu atypique, c'est un récit de vie. C'est Chloé Martin qui vient nous livrer comment elle est tombée à l'amour des bals traditionnels, comment elle est tombée dedans, elle s'est fait embarquer. Et donc elle nous explique les rencontres qu'elle fait dans les bals trad. Elle nous montre certains pas de danse. Elle est accompagnée par 3 musiciens d'un orchestre trad. Et donc on apprend, on suit ce récit de vie et en même temps on apprend différents pas. Le public est placé face à face en bifrontal, donc c'est une forme assez originale. Et on clôture cette journée par un bal trad avec le bal populaire de la Lande Profonde qui vient nous faire danser et mettre en pratique un peu tout ce qu'on aura appris pendant le spectacle.
Pour accrocher un peu de territorialité au festival, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des artistes qui viennent d'un peu partout, mais il y a quand même l'idée en fil conducteur de rester ancré dans le territoire. Alors ce festival, c'est donc l'occasion de voir beaucoup de choses, mais c'est aussi et surtout l'occasion d'apporter un soutien à la création artistique. Je crois que c'est quand même très important pour la ville de Cabreton, mais pour le service public en général, d'assurer une espèce de continuité dans la création artistique, en l'occurrence en ce qui concerne ici les arts de la parole ou le conte. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots sur ce soutien aux artistes et l'importance que ça revêt?
Effectivement, c'est un des rôles du pôle de l'oralité de la ville de Cabreton, d'apporter un soutien à la création des artistes. Ça veut dire qu'on les accueille, on les héberge même si besoin, et on leur met à disposition une salle, les salles municipales ou le casino, pour tester leur lumière, le son, etc. On diffuse leur travail, alors ça peut être pendant le Festival du Conte, pendant les ambassades du Conte, pendant la saison culturelle. Parfois, on fait des préachats de spectacles pour les programmer l'année suivante. Donc oui, effectivement, c'est une des grandes missions du pôle de l'oralité. C'est quelque chose qui est important pour nous au sein de la ville de Cabreton.
Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de Radio Estacade? Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, je ne sais pas, Julien, si tu veux en dire deux, trois mots, mais effectivement, Radio Estacade, ça fait partie de notre... Dans la politique culturelle, on a une volonté d'avoir un côté participatif. Alors, ça peut être participation des scolaires, participation des habitants. On a fait plusieurs... Julien nous a fait plusieurs propositions de spectacles. L'année dernière, c'était la Tourelle, où en fait, l'artiste vient, fait un travail de collectage de la parole des habitants. Il en fait un spectacle. Et Radio Estacade, c'est l'exposition qui est proposée actuellement à la Maison Loralité du Patrimoine. C'est une installation qui est immersive, c'est une installation sonore qui a été inaugurée début avril et c'est une exposition qui est issue d'une collecte de témoignages d'habitants, de commerçants, d'accord, de pêcheurs, de plongeurs, de restaurateurs de cabretons. Et c'est un travail qui a été réalisé par l'agence de géographie affective qui va, pendant le festival, proposer des visites guidées. Je ne sais pas si j'ai tout
donc
dit.
Donc là, il faudra être au village pour avoir ces infos, savoir si on veut participer aux visites guidées et tout. Tout est prévu au sein du village, j'imagine qu'il y a
tout
des
accueils. Tout
est
prévu, tout est dans le programme.
C'est ça, il y a des plages horaires dans le programme. C'est gratuit, mais il faut réserver parce qu'il y a 12 places à chaque fois.
D'accord.
Donc on peut réserver la billetterie du village ou en ligne. Et ensuite, ça se passe à la MOP où Olivier Villanov nous fait une visite guidée de ce Radio Estacade.
La MOP, donc, c'est la fameuse maison de l'oralité et du patrimoine qui est en plein cœur du centre-ville de Cabreton.
Tout à fait, derrière les salles municipales.
Très bien. Il y a aussi samedi soir un plateau partagé. Alors moi, ça a un peu attisé ma curiosité, le plateau partagé. J'ai dit hors antenne, j'ai dit scène ouverte. Alors c'est pas vraiment une scène ouverte. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce que c'est que ce plateau partagé du samedi soir ?
La volonté, même si le festival se termine le dimanche, c'était de faire une soirée de clôture. Et comme je disais tout à l'heure, on aime beaucoup que les artistes soient présents tout le festival et qu'ils puissent proposer différentes parties de leur répertoire. Là, l'idée, c'était de proposer à quatre artistes qui sont là tout le long du festival de partager la scène. Les conteurs, ils ont tout un répertoire d'histoires. Ils ont beaucoup d'histoires dans leur sac à histoire, comme on dit.
Oui.
Et là, l'idée, c'était de les réunir, ces quatre artistes. Donc, il y a deux artistes féminines qui sont Cécile Pérus et Mélancolie Motte, et deux artistes masculins qui sont Luigi Rignanez et Olivier Villanov. Et donc l'idée, c'est de les réunir, parce que connaissant un peu le répertoire, autour du thème de héroïnes, des femmes fortes qui ont traversé l'histoire, des héroïnes, soit mythologiques, soit des récits de vie. Et donc autour de ce répertoire, ils en ont déjà parlé entre eux, ils se sont prévus un temps de travail pendant le festival, et donc ils vont partager la scène. L'idée, bien sûr, c'est pas qu'il y ait un enchaînement, mais que ils puissent partager des moments, faire des transitions, etc. et nous proposer une soirée, une dernière soirée du festival autour de leurs histoires.
Oui, Sarah.
Simplement, si je peux rebondir, parce que là, du coup, Julien a cité quatre artistes qui démontrent parfaitement tout le travail qu'on fait à l'année et même au-delà, puisque Mélancolie Motte, c'est la conteuse qui a proposé un spectacle aux élèves de CE2, là, dont on parlait tout à l'heure. Luigi Rignanez, programmé pendant les ambassades du conte. Et Olivier Villanov, c'est un des artistes qui fait partie de la compagnie de l'agence de géographie affective dont l'exposition est en place actuellement à la MOP. Donc vraiment, le festival, on va dire, c'est le moment fédérateur et le rassemblement de tous ces artistes. Mais les artistes, on a à cœur en fait de les accompagner, de soutenir leur création et de les programmer sur le Festival du Conte, parfois sur les ambassades, voilà, sur les saisons culturelles, de les suivre sur le long terme.
Il y a aussi, la volonté d'avoir des artistes qui assurent comme un fil conducteur tout au long du festival. C'est le cas d'Adèle Zouane, vous en parliez tout à l'heure, Julien. En quoi c'est important le rôle que peuvent avoir ces artistes qui sont là du début à la fin et qui assurent une forme de continuité ?
L'idée, c'est d'avoir un fil rouge. Alors, l'année dernière, c'est Jérôme Rouget et Fred Billy qui ont assuré ce fil rouge tout au long du festival. Cette année, la volonté, c'était de confier une journée à un artiste différent. Donc le jeudi, c'est Adèle Zouane qui sera là. Le vendredi, c'est Jérôme Rouget qui a assuré le fil l'an dernier, qui va revenir faire une sorte de bilan un an après. Et le samedi, ce sera Christelle de l'Arrosé qui joue le dimanche, qui est plutôt une artiste de rue, elle. Et l'idée, vraiment, c'est de leur dire, vous êtes là toute la journée, vous faites des interventions avant 5 ou 6 spectacles qu'on cible dans la journée. Et ensuite, mettez-y votre patte. Donc, soit ils seront là pour discuter avec les spectateurs, soit pour faire une proposition bien écrite, soit dans l'interaction toute la journée avec les spectateurs. Mais en gros, c'est leur confier un peu la responsabilité du public pendant une journée. Voilà, ouais, le jeudi, Adèle, le public est à toi.
Les animateurs. Tout ce que tu veux. Voilà. Ouais, c'est génial, ça assure. Il n'y aura pas un temps mort, quoi. Hein, de mercredi à dimanche, on sent bien que l'organisation a été pensée pour que ça foisonne et qu'il n'y ait vraiment aucun temps mort. Bon, merci. C'est l'heure de notre dernière pause en musique et on se retrouve après pour la conclusion de l'émission. À tout de suite. Et c'est déjà l'heure de la dernière partie de la conclusion de l'invité du 12-13 où nous parlons du 37e Festival du Conte et des Arts de la Parole de Cap-Breton. Alors, j'ai une question pour Sarah. Concernant l'affiche du festival, je la vois, elle est belle. Il y a un mur rose, il y a des personnages à la queue leu-leu avec des canettes sur les oreilles, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette affiche?
Alors, avec l'arrivée de Julien l'année dernière comme directeur artistique, on a eu envie de révolutionner un peu cette affiche. Alors révolutionner, le mot est peut-être un peu fort, mais de secouer les codes. Et on est passé sur un format photo. Et alors à Cap-Breton, on y tient à ce côté participatif, participation des habitants. Et on a proposé, en fait, on a fait un appel à volontaires, en fait. Et on a proposé à des artistes, à des bénévoles de participer à cette affiche. Ça a été le cas l'année dernière, c'est à nouveau le cas cette année. L'an dernier, c'était le long de l'estacade, ils étaient en maillot, avec un temps très désagréable, les températures très très basses. Cette année, ça a été un peu mieux. Et le mur rose dont vous parlez, le ciel de fleurs, c'est à la Maison L'Oralité du Patrimoine. Oui. Les tuyaux, le mégaphone, etc. C'était pour faire ressortir le côté transmission de la parole. Et alors, donc, c'est vrai. Effectivement, à nouveau cette année, on a eu envie un peu que cette affiche fasse tourner les têtes. C'est une commande qu'on a faite à une compagnie qu'on a déjà accueillie plusieurs fois, la compagnie Etchouen Kassa. Et ça sera à nouveau le cas au moins l'année prochaine.
Et donc, c'est les bénévoles qui sont sur le...
Alors, pas que, mais effectivement, on a la chance. Alors, à Cap-Breton, on a énormément d'associations, plus de 160 associations, énormément de bénévoles. Et pour la culture, c'est le cas. On a une armée de bénévoles qui nous accompagnent toute l'année et notamment pendant le Festival du Conte. Et effectivement, alors je ne vais pas dire qui est qui parce qu'ils n'ont pas forcément envie, mais effectivement, on a des bénévoles sur cette affiche qui ont joué le jeu et c'est super.
Et donc, c'est l'occasion de remercier tous les bénévoles qui participent, parce qu'il y en a beaucoup pour organiser un festival de cette ampleur, j'imagine.
On a beaucoup de bénévoles, et sinon, on ne pourrait pas faire, en fait, ces 5 jours de festival. On a beaucoup de bénévoles qui participent aussi pendant toute la saison. On les a présents en salle. C'est eux qui aident l'équipe à biper les tickets, à installer les gens. Donc, voilà, on a énormément de chance à Cap-Breton. Et pour la culture, on a énormément de chance d'avoir tous ces bénévoles.
Donc, à tous les auditeurs, rendez-vous demain. À quelle heure, Julien, pour l'inauguration?
Alors, l'inauguration est à 18h, mais il y a des spectacles avant à venir découvrir en famille.
Donc dès l'après-midi, rendez-vous dans les rues, les parcs de Cap-Breton pour ce beau festival du conte et des arts de la parole. Et là, je parle à Sarah et à votre casquette d'élu à la culture. Quels sont les autres événements programmés à l'été et à la rentrée de septembre, etc. Vous avez des annonces peut-être à faire?
Oui, tout à fait. On termine notre saison culturelle. On a encore 2 spectacles au mois de juin. Un en plein air et un en salle autour du jazz. On a aussi tout l'été des événements. Mais on a vraiment un événement important pour Cap-Breton. C'est les 80 ans des Fêtes de la Mer.
Ah oui.
Voilà, Cap-Breton, Cité Marine.
Alors, c'est quand ça?
C'est le week-end du 13 et 14 juin.
Très bien.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va être un magnifique événement. Et les Fêtes de la Mer, c'est toujours sympa.
Et concernant toujours le conte, il y a aussi les ambassades du conte à l'automne, donc il faudra aller y jeter un œil. Et voilà, écoutez, déjà la fin de notre émission, on aurait pu y passer une demi-heure de plus, mais bon, il faut bien toute bonne chose à une fin, comme on dit. Je vous remercie en tout cas tous les deux de votre présence.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, et je vous souhaite bon courage pour la tenue de ce beau festival, en espérant peut-être l'année prochaine refaire une émission avec vous.
Avec plaisir.
Pour débriefer tout ça.
Avec plaisir.
Merci à tous. Courez vite donc à Cap-Breton dès mercredi pour ce beau festival. Et pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Adi Schatz.